Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 25 septembre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriac et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Intensification des raids en Syrie contre les djihadistes de l'État islamique. Les États-Unis et leurs alliés ont visé des raffineries de pétrole.
En Guinée, 27 personnes ont été arrêtées suite au meurtre d'une équipe de sensibilisation à l'Ebola la semaine dernière.
Dans le même temps, le Nigeria dit ne plus être affecté par le virus.
Au Tchad, un projet de loi actuellement devant l'Assemblée alimenterait l'homophobie et exposerait les comportements homosexuels à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion.
Les gens peuvent être arrêtés ou on peut enquêter sur eux simplement parce qu'ils sont perçus être d'orientation sexuelle différente.
Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
Intensification des raids en Syrie contre les djihadistes de l'État islamique. Hier soir, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont visé 12 raffineries contrôlées par les insurgés islamistes dans l'est de la Syrie. C'est ce que rapporte le Pentagone. L'objectif serait notamment d'assécher la source principale de financement des djihadistes qui revendraient le pétrole en contrebande. Les premières frappes en Syrie ont débuté mardi à l'aube et le président américain Barack Obama appelle le monde à se joindre au combat.
Le président américain qui est à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Hier, un conseil de sécurité extraordinaire présidé par le chef de l'exécutif américain a d'ailleurs adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot des djihadistes étrangers en Syrie et en Irak et contrer la menace qu'ils représentent pour leur pays d'origine. Jean-Roger Billon.
Ce texte adopté à l'unanimité impose aux États, sous peine de sanctions, d'empêcher leurs citoyens de s'enrôler dans des organisations extrémistes comme l'État islamique. Cette rare réunion au sommet était présidée par le chef de l'exécutif américain Barack Obama et rassemblait plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, dont le président français François Hollande. M. Obama a rappelé que selon les experts, quelque 12 000 combattants étrangers venus de plus de 80 pays avaient rejoint ces dernières années les organisations extrémistes en Irak et en Syrie. Une résolution ne suffira pas, les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il faut que les paroles prononcées ici soient suivies d'actions concrètes pendant les années à venir, a affirmé le président américain cité par l'AFP. La résolution avait été proposée par les États-Unis qui s'efforcent depuis des semaines de rassembler une coalition internationale contre l'État islamique. Washington mène depuis le 8 août des frappes aériennes en Irak, puis depuis lundi en Syrie contre les positions de l'État islamique avec l'aide de 5 alliés arabes. Le texte est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prévoit des sanctions en cas de non-respect.
De son côté, le Premier ministre britannique David Cameron estime qu'il faut donner à l'Iran l'occasion de montrer qu'il peut contribuer à une solution en Syrie. Les dirigeants iraniens pourraient aider à vaincre la menace du groupe État islamique, a ajouté le Premier ministre, qui a rencontré mercredi à l'ONU le président iranien Hassan Rouhani.
Rappelons aussi qu'un groupe d'Algériens, un groupe algérien lié à l'État islamique affirme avoir décapité un randonneur français enlevé en début de semaine. Les soldats du califat avaient menacé de tuer Hervé Gourdel, âgé de 55 ans, à cause de la participation de la France à la campagne militaire contre l'État islamique en Irak. Une vidéo publiée par le groupe ne montre pas la décapitation, mais un militant tenant une tête devant la caméra. On rappelle que 2 Américains et 1 Britannique ont été tués de la même façon par les djihadistes de l'État islamique. En réaction, le président français a convoqué une réunion de crise du gouvernement. La France vit une épreuve, mais ne cède jamais au chantage, a dit François Hollande devant l'Assemblée générale de l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, 27 personnes ont été arrêtées suite au meurtre d'une équipe de sensibilisation à l'Ebola la semaine dernière dans le sud du pays. Claire Morin-Gibourg.
Cheikh Sako, le ministre de la Justice guinéen, a tenu à l'annoncer en personne. La plupart des auteurs de ces crimes ont été mis aux arrêts. Ce sont au total 27 personnes, a-t-il déclaré. Les personnes arrêtées, dont le cerveau présumé de la tuerie, un commerçant, sont détenues à Dzérékoré et font l'objet d'un interrogatoire devant le procureur de la République. 8 membres d'une équipe faisant campagne pour prévenir la propagation du virus Ebola avaient été tués le 16 septembre dernier dans le village de Womé, proche de Dzérékoré, la plus grande ville du sud guinéen. La délégation en mission de sensibilisation avait été attaquée à coups de pierre et de bâtons par des villageois qui, selon eux, l'accusaient d'être venus les tuer, croyant que l'Ebola était, selon leurs propres termes, une invention des Blancs pour tuer les Noirs. Si les réactions d'hostilité à l'égard des équipes médicales sont régulières, c'est la première fois que ces violences aboutissent à des morts. Selon des témoins cités par l'AFP, la ville de Forécaria, dans le sud du pays, a été mardi le théâtre de heurts entre des habitants et une équipe de la Croix-Rouge déployée pour récupérer le corps d'une femme victime supposée de l'Ebola. Les volontaires de la Croix-Rouge ont dû fuir devant les jets de pierre.
Et toujours au sujet de l'épidémie d'Ebola, le Nigeria n'est plus affecté par le virus. C'est du moins ce qu'a annoncé le président nigérian Goodluck Jonathan hier devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Une affirmation optimiste qui n'a pas encore été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS attend 42 jours, soit deux fois la période d'incubation, pour déclarer qu'un pays n'est plus touché par la maladie. Le Nigeria n'ayant plus signalé de cas depuis le 8 septembre, c'est le 20 octobre seulement que l'OMS sera en mesure de se prononcer. Chérubin Dorcy nous en dit plus.
L'épidémie a déjà fait 8 morts au Nigeria. Nul doute que l'éventuelle propagation du virus à Ebola aurait eu des conséquences énormes dans ce pays, le plus peuplé du continent et première économie de l'Afrique. Dans une déclaration reprise par l'AFP, un porte-parole du ministère nigérian de la Santé, Dan Nwome, a affirmé que ceux qui étaient en observation ont terminé leur période obligatoire de 21 jours, telle que prescrite par l'OMS. Détecté en juillet dernier au Nigeria, le virus y a infecté 20 personnes, dont les 8 décès rapportés par l'OMS, bien que les autorités locales n'aient signalé que 7 morts. Dans une interview mardi soir, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre de la Santé du Nigeria, Dr Onyebuchi Chukwu, a déclaré que présentement, son pays n'a aucun cas d'Ebola. Au total, 529 personnes avaient été placées en observation à Lagos, la capitale économique du pays, et dans l'état pétrolifère de Rivers. Abuja n'avait rapporté aucun cas depuis le 8 septembre.
République démocratique du Congo, l'ONU s'inquiète de la mortalité élevée dans les prisons. Nous avons noté 10 cas de décès dans les lieux de détention, a déclaré à l'AFP le directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme en RDC, Scott Campbell, à l'issue d'une conférence de presse hier à Kinshasa. Selon l'ONU, la situation dans les prisons de la RDC s'est fortement dégradée en 2012, où le nombre de décès en détention a presque doublé par rapport aux deux années précédentes.
Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, est convaincu que les forces de sécurité afghanes pourront relever le défi posé par les insurgés talibans après le départ des forces internationales dans le pays depuis 2001. Lionel Gaïma.
Dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique au siège de l'ONU à New York, M. Rasmussen s'est félicité de l'accord de partage du pouvoir à Kaboul entre le nouveau président Ashraf Ghani et le nouveau chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. Il s'attend à une signature rapide des accords sur la présence d'une mission d'entraînement de l'OTAN en Afghanistan en janvier 2015. Selon M. Rasmussen, les forces afghanes seront capables de relever le défi posé par les insurgés talibans. Il a par ailleurs souligné que l'OTAN n'a aucun rôle officiel dans la coalition qui s'en prend aux forces de l'État islamique en Irak et en Syrie, mais l'alliance est prête si Bagdad le demande à reprendre sa mission d'entraînement en Irak. L'OTAN a également décidé de renforcer les échanges d'informations et de renseignements pour contrer le risque et les menaces posées par les djihadistes étrangers retournant chez eux. Concernant l'Ukraine, M. Rasmussen a de nouveau qualifié de violation flagrante du droit international l'invasion russe.
Barack Obama appelle la Russie à mettre fin à son agression en Ukraine. Agression qui, d'après le président américain, rappelle une époque où les grandes nations piétinaient les petites pour poursuivre des ambitions territoriales. À la tribune de l'ONU, il a demandé à la Russie de choisir la paix préalable à la levée des sanctions occidentales au moment où les négociations sur l'avenir des régions séparatistes sont au point mort. En réponse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a adressé une fin de non-recevoir au président américain. Les sanctions sont l'affaire des États-Unis, mais ce qui se passe en Ukraine n'est en aucune façon leur affaire, a déclaré le ministre, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax, citée par l'AFP.
Retour sur les attentats de Boston en avril 2013, un juge a ordonné mercredi que le procès soit retardé de 2 mois jusqu'au 5 janvier 2015. Il a cependant refusé qu'il soit déplacé dans une autre ville. L'accusé, Djokhar Tsarnaïev, 21 ans, risque la peine de mort. Son avocat craint qu'il ne soit jugé et qu'il ne soit pas jugé équitablement à Boston.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, au micro Morgane Guiriec. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Dans un communiqué rendu public hier, la procureure de la Cour pénale internationale de La Haye, Fatou Bensouda, a annoncé avoir ouvert une enquête sur les atrocités et autres crimes commis en Centrafrique depuis plus d'un an et demi. Félix Yepassi Zembrou a pu joindre à Bangui le coordonnateur adjoint de la coalition centrafricaine pour la CPI, maître Bruno Biegba.
Cette décision ne peut que nous réjouir, nous qui sommes les militants des droits de l'homme et qui militons contre l'impunité. Car vous savez que depuis cette période, il y a eu des crimes graves, des atrocités qui ont été commises par des bourreaux. Et les militants des droits de l'homme ont demandé à Madame le procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête. Et notre satisfaction, elle n'est pas encore totale tant qu'on n'aura pas démarré les enquêtes et aussi tant qu'on n'aura pas mis la main sur ces bourreaux, afin que les victimes sachent que vraiment la justice est en œuvre. Et une autre satisfaction réside dans le fait qu'au niveau national, les juridictions ne fonctionnent pas assez normalement. Donc c'est aujourd'hui la Cour pénale qui fait ce travail en attendant la reprise normale des activités judiciaires au niveau du pays. Ce n'est qu'une satisfaction et nous souhaitons à ce que les choses aillent normalement et assez vite.
Les bourreaux dont vous parlez, cela implique-t-il aussi les anciens chefs d'État en exercice de l'époque ?
Non, nous parlons en termes de bourreaux. Parce que vous savez, devant la Cour pénale internationale, personne ne peut se prévaloir de son ancienne qualité pour dire qu'on ne peut pas le poursuivre. Les immunités ne sont pas opposables à la CPI. Donc, que vous soyez un ancien chef d'État, un ancien ministre ou un ancien parlementaire, cette qualité n'est pas opposable à la CPI. Mais nous demandons seulement à la CPI d'ouvrir une enquête et de poursuivre tous les auteurs de ces exactions, qu'ils soient des auteurs intellectuels ou bien des auteurs matériels.
Voilà, c'était maître Bruno Biegba, coordonnateur adjoint de la coalition centrafricaine pour la CPI.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Un projet de loi actuellement devant l'Assemblée au Tchad alimenterait l'homophobie et serait un pas en arrière au regard des droits de l'homme. C'est ce qu'affirme Amnesty International. L'ONG avertit que les modifications du code pénal proposées par le gouvernement du président Idriss Déby Itno exposeraient les comportements homosexuels à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 1 000 euros. On écoute le chercheur Christian Moukosa, spécialiste de l'Afrique à Amnesty International.
Nous interpellons les autorités tchadiennes, donc le gouvernement, le Parlement, parce que le projet de loi qui a été soumis au Parlement nous paraît très vague, imprécise et dangereuse parce que les gens peuvent être arrêtés, détenus ou on peut enquêter sur eux simplement parce qu'ils sont perçus être d'orientation sexuelle différente. Et donc ça, c'est pas acceptable.
Alors le projet de loi tchadien survient quelques semaines après que les législateurs gambiens aient proposé de nouvelles peines sur l'homosexualité.
Nous sommes préoccupés par la tendance, l'intolérance grandissante sur les continents. Vous avez bien mentionné la Gambie et peut-être que c'est pas la fin. Et ce qui est important, c'est que les autorités doivent essayer de respecter l'orientation des gens ou sexuelle des uns des autres et être plus tolérants possible et s'assurer que le respect des droits humains soit les mêmes partout et pour tous dans le pays. Encore, c'est très important pour nous de nous rassurer que ce genre de projet de loi ou de proposition de loi n'affecte pas justement la dignité humaine, mais également ne donne pas le flanc à des dérives.
Christian Moukosa, spécialiste de l'Afrique à Amnesty International, joint par Camille Gros-Didier. Pour une réaction du Tchad, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Beyem Adrien Malo, secrétaire général du Mouvement populaire du Salut, le parti au pouvoir.
Parler de la criminalisation de l'homosexualité, ce n'est pas un mot adéquat. L'homosexualité est punie. Punie parce que c'est une déviance de la ligne logique de la marche de la nature. C'est une pratique qui sous-tend une dénégation même de la société. Parce que toute société est appelée à se poursuivre par la procréation. Or, que prône l'homosexualité ? C'est une sorte d'extinction même de la race humaine. Je crois que c'est dans cette ligne qu'il faut interpréter cette punition de la déviance sexuelle. J'appelle ça la déviance parce que, naturellement, c'est l'hétérosexualité qui est la norme.
Les ONG de défense des droits humains disent que les modifications proposées sont très vagues et pourraient conduire à la poursuite de quelqu'un sur la base de simples dénonciations ou même de la rumeur. Qu'en dites-vous ?
Toute personne est d'abord présumée innocente. Ce n'est pas sur la base de fausses rumeurs ou bien de « on dit qu'on peut poursuivre quelqu'un pour mettre sa pratique sexuelle ». Je crois que la peur réside ailleurs. Ce n'est pas au nom de la liberté ou de la possibilité de disposer de son corps qu'il faut anéantir et bannir ce que la nature elle-même consacre. C'est parce qu'il y a les différences sexuelles, c'est parce qu'il y a l'homme et la femme que la procréation est possible.
Beyem Adrien Malo, secrétaire général du Mouvement populaire du Salut, le parti au pouvoir à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24 à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Nous partons maintenant au Bénin, où le président a suscité la polémique en dénonçant la cherté des élections. Qu'ils soient citoyens, membres de la société civile ou de la classe politique, les Béninois sont sceptiques et se demandent s'il s'agit d'un prétexte pour ne pas organiser les élections. C'est ce que nous explique Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
Le président de la République du Bénin n'est plus d'accord avec ce que coûte l'organisation des élections dans son pays. 5 milliards de francs CFA y sont engloutis depuis qu'il a pris les rênes du pays en 2006 et il appelle à une concertation nationale pour en parler. Cette déclaration faite le week-end écoulé par le numéro 1 béninois au nord du pays suscite un débat houleux depuis lors. Chez les opposants, c'est ce qui était soupçonné de longue date qui vient d'être confirmé. Samu Adambi, ancien député G13 à l'Assemblée nationale, et David Dansou, membre de l'Union fait la Nation, le regroupement des partis politiques de l'opposition au Bénin.
Les déclarations faites auparavant et celles qu'il vient de faire tout récemment dans le Borgou ne concordent pas du tout. En ce sens que nous avons déjà les élections communales, municipales et locales en retard et qu'il faille qu'on les organise maintenant. Et le COSLEPI en train de faire un travail est bloqué pour raison de financement. Je ne vois pas l'opportunité d'une telle déclaration aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est par rapport à la cherté des élections. C'est vrai, de 2006 à nos jours, il a estimé que ça fait à peu près 100 milliards. La LEPI qui nous a conduit aux élections de 2011, 45 milliards sont partis dedans. Donc pour toutes les autres élections organisées, on se rend compte donc ont coûté environ 55 milliards. J'estime que ce n'est pas trop pour ce qui représente le socle de notre démocratie.
Il a juste dévoilé son plan parce qu'il ne savait pas que l'opposition avait à même analysé ce plan secret machiavélique qui s'opérait dans l'ombre, que c'était la panique, il faudrait qu'il sorte de son silence et venir abrutir encore le peuple. Non, 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 nous disons non, nous ne pouvons pas accepter cette comédie-là.
Clotaire Oliidi, membre de la société civile béninoise, pense pour sa part qu'il faut maintenant des manifestations publiques pour empêcher le chef de l'État d'arriver à se maintenir au pouvoir par des subterfuges.
Aujourd'hui, la seule chose qui reste, c'est que les citoyens se mobilisent pour passer à des manifestations publiques pour contraindre nos institutions à revenir sur leur position. Parce que toutes les institutions aujourd'hui semblent être acquises au chef de l'État. Aucune de ces institutions ne fait rien pour nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Le député Bida Youssouf, membre de la mouvance présidentielle, balayera tout ceci du revers de la main. Pour lui, il y a un problème fondamental qu'il faut régler et Boni Yayi n'a fait que dire la vérité.
Comment est-ce qu'on peut corriger la LEPI avec 13 milliards ? Ils ont dans un premier temps demandé 13 milliards. Avec les discussions, ils se sont retrouvés à 9 milliards. À la date d'aujourd'hui, ils ont reçu 6 milliards 5. Sur plus de 10 étapes, nous sommes à une seule étape. C'est Yahya Boni qui organise le processus de la correction de la LEPI ? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il y a un problème politique fondamental dont il faut chercher la source.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur l'épidémie d'Ebola qui pourrait devenir endémique en Afrique de l'Ouest d'après l'OMS. Quels sont les obstacles à surmonter dans la lutte anti-Ebola? Quel impact sur les pays affectés? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le rôle des femmes dans l'agriculture, c'est le thème d'une journée d'information et à l'intention des élèves du camp national d'excellence du Mali. La journée a réuni les femmes qui évoluent dans le domaine de l'agrobusiness, les femmes vivant en milieu rural et les ingénieurs agronomes du Mali. Devant 150 jeunes filles et garçons, les intervenantes devraient susciter l'engouement pour l'agriculture chez les enfants. Kassim Traoré, pour plus de précisions.
Informer les enfants sur le rôle des femmes dans l'agriculture au Mali, tel était le but de ces panels à l'intention des 150 enfants du camp d'excellence du Mali. C'est pourquoi la cérémonie a commencé avec la projection du film sur le parcours de la petite Téma, un film qui retrace la vie d'une fille qui veut devenir une agricultrice. Gakou Salamata Fofana, président de l'association des femmes ingénieures du Mali.
Susciter l'engouement chez les filles, chez les jeunes garçons, à s'orienter vers ces branches agricoles qui ne peuvent que contribuer au développement du pays, à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire.
Jeune fille, agriculture, quelle perspective pour le millénaire a été le premier thème exposé. Il a été animé par les femmes ingénieures agronomes et les femmes rurales qui ont parlé de leur vécu quotidien. Tera Aïchata Traoré, chercheur à l'Institut d'économie rurale.
Au Mali, c'est même plus de 60% la main-d'œuvre féminine utilisée dans l'agriculture. Et on dit que les femmes occupent à peu près 80% dans la production agricole. Et ces 80% aussi, c'est une réalité. Les hommes sont à un niveau, au niveau de la production, au champ, alors que les femmes sont sur toute la chaîne.
Les élèves du camp ont eu droit à un autre exposé sur l'expérience du Fonds Sasakawa pour l'éducation et la vulgarisation agricole en Afrique. Un fonds qui soutient beaucoup les femmes maliennes qui évoluent dans le domaine agricole. Assa Kanté, coordinatrice du CFA.
Parler d'agrobusiness, il faut parler d'abord d'agriculture. Donc comment est-ce qu'on peut transformer cette agriculture de subsistance déjà connue dans nos pays en une agriculture beaucoup plus commerciale. Au niveau des Sasakawa, on a essayé d'engager des actions pour éduquer le maximum de femmes à pouvoir éduquer les femmes rurales dans le domaine de la vulgarisation agricole.
Tout cela pour dire aux jeunes que les femmes jouent un rôle capital dans le domaine agricole au Mali. Bon nombre de Maliens sont unanimes que l'agriculture peut développer le Mali. C'est pourquoi le gouvernement du Mali y a consacré 15% de son budget. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi l'actualité sportive. Bonjour Tim.
Bonjour Morgane.
Suite du premier tour du championnat du monde de volleyball dames à Rome.
Un mondial italien où les volleyeuses africaines continuent de chercher leur marque. Dans la poule A, la Tunisie s'est inclinée devant la République dominicaine hier 3-7-0. Victoire par 3-7-0 de l'Italie contre la Croatie et celle sur le même score de l'Allemagne contre l'Argentine. Dans la poule B, défaite des Camerounaises 3-7-0 face aux Brésiliennes. La Turquie a battu le Canada 3-7-0 et match âprement disputé entre la Serbie et la Bulgarie. Les Serbes se sont imposés par 3-7-2. Poule C, les États-Unis ont gagné 3-7-0 leur match contre le Kazakhstan. La Russie a fait de même face au Mexique et victoire par 3-7-0 aussi des Pays-Bas contre la Thaïlande. Poule D, Porto Rico a battu Cuba 3-7-0. Victoire du Japon 3-7-1 contre la Belgique et celle de la Chine contre l'Azerbaïdjan 3-7-0.
Sport féminin toujours avec cette fois-ci le basketball. Le Qatar a retiré son équipe des Jeux asiatiques d'Incheon en Corée du Sud.
La raison, la moitié des joueuses qataries portaient un voile islamique alors que cela est interdit par la Fédération internationale de basketball, la FIBA. Alam Al-Mana, responsable qatari que cite l'AFP, a dit que cette exigence de la FIBA va à l'encontre des objectifs du Comité international olympique qui tendent vers l'inclusion des pays de différentes cultures.
Football africain, la Guinée et la Sierra Leone joueront leur match de la troisième journée des qualifications de la CAN 2015 à l'extérieur. La Confédération africaine de football ayant maintenu sa décision de ne pas organiser des rencontres dans ces deux pays à cause de l'épidémie d'Ebola.
Ainsi, la Sierra Leone affrontera à sa demande le Cameroun le 10 octobre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est également à Yaoundé que les Camerounais joueront leur match retour contre les Sierra Leonais. La Guinée et le Ghana s'affronteront de leur côté le 11 octobre à Casablanca, au Maroc.
Et puis, des voix continuent de s'élever pour la publication du rapport sur l'attribution controversée des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar.
Michael Garcia, directeur de la Chambre d'investigation du Comité d'éthique de la FIFA, a demandé hier que le document de 430 pages produit par son équipe d'enquêteurs soit rendu public. L'ancien procureur américain a publié un communiqué dans ce sens hier, à la veille de la réunion du comité exécutif de la FIFA prévue aujourd'hui et demain à Zurich. Avant Michael Garcia, le prince Ali Ben Al Hussein, membre du comité exécutif de la FIFA, avait demandé la même chose.
C'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Les artistes vivant en Guinée commencent à se mobiliser, eux, contre l'épidémie. Après la chanson du collectif de plusieurs artistes guinéens, Injuste pour la vie, c'est le tour de la grande chanteuse ivoirienne Aïcha Koné qui vit à Conakry. Aïcha a composé une chanson de sensibilisation à la lutte contre Ebola. Écoutons.
Jangaro mina niko Ebola
Manyo sila mfenye
Bone mina niko Ebola
Manyo sila mfenye
Ebola.
Alors Roger, la chanteuse ivoirienne qui berce l'Afrique de l'Ouest depuis 1976 s'est mise au service d'une juste cause, sensibiliser les populations à l'épidémie.
Oui Morgane, on entend Aïcha Koné chanter « Ebola, c'est le Koiboyola. Retourne à ton point de départ, c'est le Koiboyola. Retourne d'où tu viens. » Pour Koné, ce message est aussi simple qu'essentiel en ces temps d'épidémie. D'après elle, c'est très important de dire à toutes les populations qu'Ebola est vrai. Cette maladie existe vraiment et que lorsqu'on la découvre à temps, on a des chances d'être sauvé.
Aïcha Koné, Ebola. Merci Roger.
De rien Morgane, bonne journée à tous nos auditeurs de Brazzaville au Congo.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel.
Ebola, c'est le Koiboyola. Ite Borokolonto, ite Walitigito. Ebola, c'est le Koiboyola. Jangaro mina niko Ebola
Manyo sila mfenye
Bone mina niko Ebola
Manyo sila mfenye
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Annette Bourson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro et je vous souhaite une excellente journée.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.